Le CIMI 2025 en partenariat avec Prestataire Certification sur Radio Imo et Radio Territoria.
Et bonjour, bienvenue sur Radio Imo en direct du CIMI édition 2025, en direct de la Porte de Versailles. Une première d'ailleurs pour le CIMI. Tout de suite, on parle d'un sujet très concret pour l'immobilier. La taxonomie ou la taxinomie européenne est-elle une contrainte de plus ou un vrai levier pour financer et accélérer la transition du parc? Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec quatre intervenants. Maude Robertson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable RSE pour Emerige rapidement. Qu'on connaît évidemment, mais...
Emerige, promoteur immobilier, présent depuis 35 ans en Ile-de-France et puis dans le sud, dans la région de Nice.
Et évidemment, vous êtes présent. Au CIMI, Julien Collin, bonjour.
Bonjour.
Directeur Real Estate et Smart Building pour le cabinet Bartel. Le cabinet Bartel, présentez-nous votre
Bartel,
cabinet.
En quelques mots, c'est un cabinet de conseil en transformation et management multisectoriel. Et on intervient pour le secteur immobilier, des promoteurs, des bailleurs, des foncières, des directions immobilières, sur des sujets de stratégie, d'organisation, transformation et durabilité, dont le réglementaire et la taxonomie.
Eh bien, justement, on est dans le vif du sujet. Yann Lelosque, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur régional adjoint et directeur grand compte à la Banque des Territoires. Bon, la Banque des Territoires, on va quand même la présenter.
Ah, ils ont pas encore. On est la marque de la Caisse des dépôts et consignations. On est en fait son bras armé sur tous les sujets d'intervention financière sur les territoires.
Et enfin, Rodolphe Barraud, bonjour. Vous êtes responsable qualité et référentiel chez Prestataire Certification. Et pareil, Prestataire Certification, en quelques mots.
Alors, Prestataire Certification, c'est un organisme accrédité par le COFRAC pour délivrer des certifications pour le logement et le tertiaire dans le neuf et en rénovation.
Eh bien voilà, eh bien, on va parler donc de la taxonomie, alors, ou taxonomie. Je ne sais pas comment vous employez ce terme. C'est la pierre angulaire du pacte vert, mais sur le terrain, beaucoup d'acteurs se demandent justement encore comment l'appliquer, avec quelles preuves et avec quels impacts économiques. On va essayer justement de passer du texte aux effets très concrets pour les promoteurs, les certificateurs et puis les financeurs. Alors, on va rentrer, on va poser le décor déjà, peut-être avec vous, Julien. Qu'on parle tous avec le même niveau d'information, c'est quoi très concrètement la taxonomie ou taxonomie européenne appliquée à l'immobilier?
Alors, petit retour en arrière, donc, la taxonomie, ça s'inscrit dans le cadre du pacte européen du Green Deal, en fait, qui vise à la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et dans ce cadre-là, il y a différents textes réglementaires, la CSRD, le SFDR et bien sûr la taxonomie, qui sont des textes qui visent à flécher les dépenses, les activités économiques vers des activités plus durables et vertes, et aussi aller sur des sujets de transparence et d'intégration de durabilité dans la gestion des activités et des risques. Et donc la taxonomie, c'est un texte qui vise à évaluer le côté vert des activités des entreprises, donc pour différents secteurs d'activité, et bien sûr dedans l'immobilier. Et donc pour l'immobilier, ça va principalement concerner les activités de construction, de logement et de bâtiments neufs, la rénovation et les activités de propriété et de location de parcs immobiliers. On va aussi retrouver des activités liées à l'installation d'équipements de rénovation énergétique, de bornes de recharge de véhicules électriques, de mesures de pilotage, mais ça va être principalement construction, rénovation et exploitation de sites immobiliers.
En fait, toute la durée de vie du bâtiment, du foncier.
C'est ça. Et donc la taxonomie, le principe est de, pour chacune de ces activités, de voir dans quelle mesure elles répondent à un objectif environnemental. Donc aujourd'hui, les textes ont été définis pour l'adaptation au changement climatique, pour l'atténuation au changement climatique et pour l'économie circulaire.
Donc c'est ça les principaux objectifs de cette taxonomie.
C'est ça. Et elle doit aussi ne pas contribuer négativement aux autres critères environnementaux d'eau, pollution, etc. Voilà, c'est ça le principe de la taxonomie. Avec derrière des exigences assez précises d'un point de vue technique sur ce qu'il faut respecter pour pouvoir être aligné.
Et on est d'accord, c'est un langage commun pour tous les acteurs, pour toutes les parties prenantes.
C'est ça, c'est un cadre commun qui permet à tous de pouvoir se retrouver dans ce qui est une activité verte ou pas.
Alors on entend souvent encore une couche réglementaire. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut dire que c'est le cas?
Alors oui, c'est le cas, bien sûr. Bartel, on a notamment accompagné l'Union sociale de l'habitat dans un guide méthodologique à l'application de la taxonomie pour les bailleurs sociaux. Et on a rencontré beaucoup d'acteurs, dont des certificateurs, des bailleurs, des financeurs. Et en fait, la plupart nous disaient que oui, c'est une couche réglementaire au plus, mais c'est aussi une occasion de pouvoir renforcer ou lancer une dynamique pour adresser des sujets environnementaux en interne. Et donc notamment l'atténuation au changement climatique, qui aujourd'hui est quand même beaucoup couvert par les textes réglementaires français et européens, je pense qu'on y aura plus en détail tout à l'heure avec l'Aéro 2020 par exemple. Mais c'est aussi une occasion de lancer des sujets qui étaient pour certains acteurs pas encore initiés, autour de l'adaptation au changement climatique, qui va être un gros gros sujet, enfin, et qui l'est déjà pour certains acteurs et certaines régions en France, en fait, pour pouvoir lancer le sujet, et parce que à la fin ça va être un sujet économique pour certains actifs, pour certains acteurs, par rapport à une capacité à louer, à vendre, à assurer des actifs.
Alors, l'omnibus a fait beaucoup parler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça change justement pour vous côté praticien ?
Alors, l'omnibus...
Ce que c'est déjà et alors, comment le définir ?
L'omnibus, c'est une évolution des textes réglementaires donc, qui est apparu février 2025, je crois, et qui est en cours d'être en train d'être entériné en ce moment. Donc il y a plusieurs propositions qui ont été faites et qui finalement vont dans le sens du pragmatisme et de la simplification quand même pour les acteurs immobiliers. Donc, premièrement, ça a été de réévaluer les seuils d'éligibilité pour les entreprises. Auparavant, les entreprises concernées étaient celles de 250 salariés. Maintenant, ça a été remonté à 1000 pour la première vague. Et il y a eu un principe aussi de stop the clock, c'est-à-dire la vague 2, qui était les plus petites entreprises, était concernée sur l'exercice 2025. Et ça a été repoussé à l'exercice 2027. Donc, certains acteurs ont arrêté les initiatives en cours et d'autres ont souhaité poursuivre pour pouvoir rester sur une dynamique et prendre le temps de se préparer d'ici à 2 ans pour être prêt.
C'est la majorité des acteurs qui ont décidé de poursuivre
C'est compliqué de vous dire. Peut-être que
prestataire aura
une vision un peu plus large ou la Caisse des dépôts sur au global sur le marché. Mais nous, globalement, à peu près 2/3, en tout cas des entreprises avec lesquelles on discutait de ces sujets-là, ont arrêté.
D'accord. Donc la majeure partie, les 2/3, ont arrêté. Un petit mot peut-être sur les difficultés, parce qu'on en parle justement. En étant honnête, sans langue de bois, où se situent aujourd'hui les principaux blocages que vous voyez chez vos clients, par exemple, sur la donnée, les process internes, etc.
Alors. Nous, on aime le tourner aussi différemment, de dire que
c'est des défis.
Il faut plutôt le voir comme des opportunités à se transformer. Donc, la taxonomie a permis de lancer des dynamiques sur des sujets de fond, d'adaptation au changement climatique, etc. Mais c'est aussi l'occasion, parce qu'elle le nécessite, de revoir tous les processus liés à la construction, liés à l'exploitation des bâtiments et donc à la gestion des données derrière qui permettent d'évaluer l'éligibilité. Donc, grosso modo, en fait, aujourd'hui, toutes les données sont là chez les acteurs immobiliers pour pouvoir évaluer l'éligibilité. Mais c'est pas structuré, c'est pas dans les mêmes outils. Les données sont hétérogènes entre les filiales, entre les opérations. Et quand on est dans un exercice de reporting CSRD et taxonomie, et ben c'est un gros travail d'aller chercher les données et de vérifier cette éligibilité. Et donc, la taxonomie, mais aussi la CSRD, a aussi le bienfait de montrer un peu les choses qui pourraient être améliorées en termes de processus, d'outils et de gestion des données.
D'accord.
Pour in fine aussi aller vers d'autres choses qui sont mieux concevoir, mieux construire et mieux exploiter un patrimoine immobilier.
Parce que j'allais tourner ma question différemment, sinon c'est qu'est-ce qui empêche une mise en œuvre fluide ? C'est ça en fait, c'est les outils, c'est le reporting, c'est d'exploiter la data. Aussi.
C'est ça.
Ouais.
Là, elle n'est pas sur étagère, il faut parfois aller chercher.
Donc il y a des innovations à trouver en fait, il y a des innovations à mettre en place en tout cas.
Alors il y a des innovations à mettre en place, il y a des solutions aussi informatiques qui se positionnent là-dessus, d'autres plus historiques, des startups, des solutions plus historiques aussi qui évoluent vers ce type,
ce type de des acteurs déjà en place qui innovent.
Et il y a bien sûr les certificateurs aussi qui sont pour aider promoteurs foncières aussi à faciliter finalement ce travail d'analyse d'éligibilité.
Alors, on va voir côté promoteur, Maude, chez Emmerich, vous n'êtes pas juridiquement obligé par la taxinomie et pourtant, vous avez choisi d'entrer dans une démarche volontaire. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi en avoir fait un outil justement stratégique et un outil d'engagement plutôt qu'un simple exercice de conformité ?
Tout à fait. Alors avant ça, je voudrais quand même refaire un petit point de contexte.
Ouais.
Aujourd'hui, la taxonomie européenne, c'est souvent pris comme une contrainte alors que ça peut être une vraie boussole. On est dans un contexte actuel, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une étude Ipsos de septembre 2025, donc assez récente, sur les préoccupations des Français.
Oui.
On regarde le top 5, premier, criminalité et violence, puis inflation, puis fiscalité, impôts, inégalités sociales, santé et immigration. Donc l'environnement, ce n'est pas dans le top 5. En plus de ça, on a un contexte géopolitique qui est compliqué. On a un contexte européen avec des réglementations ESG qui s'assouplissent et un secteur de l'immobilier qui reste quand même sous tension. Donc la tentation peut être grande de finalement...
De fuir, de ne pas y aller.
Tout à fait. Néanmoins, cette taxonomie, elle apporte une certaine clarté, lisibilité. Et donc pour nous, Emmerich, qui devions être soumis à la CSRD jusqu'à la loi Omnibus... Donc on avait enclenché le processus, études de double matérialité. Ouais. On avait commencé à se structurer vraiment pour répondre à ces enjeux-là. Ouais. Finalement, on n'est plus soumis. Néanmoins, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on abandonne tout ? Est-ce qu'on poursuit ? Eh bien non, pour nous, Emmerich, forcément, c'est une opportunité.
Bah, une fois que le train est lancé, c'est dommage de faire marche arrière.
Et l'objectif, c'est d'orienter les flux financiers vers des projets plus verts. Donc on a tout intérêt finalement à s'impliquer dans cette dynamique-là. Donc aujourd'hui, la taxonomie, elle nous apporte un cadre précis. C'est-à-dire qu'on a des critères, on sait comment les évaluer, on sait ce qui est une opération dite verte pour l'Europe. Charge à nous d'y répondre, de se structurer à travers un process réel. Voilà, on sait ce qui est une contribution substantielle, on sait quels sont les enjeux auxquels on ne doit pas porter préjudice. Ça a vraiment une vision 360 des enjeux environnementaux et ça permet de vraiment driver toute une stratégie de durabilité de l'entreprise. On est soumis à 7.1, quand on a une construction neuve, il y a un référentiel précis, 7.2, la rénovation d'eux-mêmes, et on s'intéresse également au 7.7 qui est charge aux acquisitions. Voilà, donc aujourd'hui, chez Emmerich, comment on fait ? D'abord, on décrypte ces normes qui font peur.
Ce qui n'est pas évident, c'est ce que j'allais dire, c'est pas toujours évident.
Voilà, donc on se fait accompagner sur le sujet pour savoir qu'est-ce qui est attendu et comment y répondre au mieux. On le vulgarise. On embarque également notre top management, donc c'est ce qu'on a fait l'année dernière en venant intervenir nos CAC pour leur expliquer finalement ce qui va être attendu dans ces enjeux de taxonomie. Et puis ensuite, on renforce notre stratégie de durabilité, donc sur les enjeux d'atténuation du changement climatique. On poursuit grâce à la RE 2020 effectivement le fait de systématiser les analyses de cycle de vie dans nos projets. On passe au bilan carbone annuel, on suit des trajectoires de réduction de nos émissions de manière plus précise. Et ça, c'est aussi grâce à la taxonomie européenne.
Ça vous, alors, oui, c'est ça qui vous avait changé votre stratégie, en fait. C'est...
Tout à fait. En fait, on a une réflexion projet par projet, la taxonomie européenne, mais on a vraiment cette vision plus globale. Qui drive la manière de hiérarchiser, en tout cas, nos priorités. L'atténuation, comme on l'évoquait juste avant, a vraiment émergé, je pense, grâce à la taxonomie européenne. Parce que ce sujet a émergé. On s'est tous posé la question de quels sont les aléas climatiques principaux auxquels mes projets sont soumis et comment je vais faire pour y répondre, quelles sont les actions que je vais mettre en place. Donc de la même manière, on embarque nos collaborateurs en faisant des webinaires sur le sujet pour leur expliquer les leviers qui peuvent être actionnés projet par projet pour répondre à ces demandes-là.
Et ça a été compliqué de changer ce prisme en interne ?
On est au bon moment. Je pense que voilà, nous ça fait 10 ans qu'on a notre stratégie RSE, on l'a fait évoluer continuellement.
Donc il y avait une continuité en fait avec cette stratégie-là en fait.
Exactement.
Ça s'inscrivait dans une continuité.
Mais ça nous donne une boussole, ça nous dit comment renforcer par exemple le sujet de l'économie circulaire qui est aujourd'hui prégnant. Donc on se renforce, on identifie des matériaux qu'on va pouvoir mettre systématiquement en œuvre dans nos projets et qui vont pouvoir encore une fois cocher je dirais les bonnes cases. Mais c'est pas tout, on réfléchit aussi au sujet de démontabilité par exemple, donc on est adhérent au booster du réemploi, il y a un groupe de travail qui s'est lancé récemment.
Donc c'est récupérer les matériaux d'un projet, d'une construction par exemple, les réutiliser.
C'est imaginer un projet pour qu'il soit une banque de matériaux plus tard. C'est-à-dire quand on va le...
Donc une seconde vie des matériaux.
Tout à fait. Donc voilà, ça nous pousse à innover sur ces sujets-là. et à embarquer aussi forcément les enjeux, je dirais, de biodiversité, non pas dans les critères tels qu'ils sont aujourd'hui énoncés, car ils sont assez réglementaires, mais dans le prisme de l'adaptation au changement climatique. Voilà. Donc nous, depuis 2022, on a une charte en 15 actions qu'on déploie sur tous nos projets, qui intègre notamment la présence d'une équipe projet avec un écologue et un paysagiste de manière systématique, mais aussi le fait de calculer ce qu'on appelle le coefficient de biotope par surface rend compte de la part végétalisée d'une opération. Donc nous, on compare en fait avant et après nos projets quel est l'impact positif qu'on peut avoir, à quel point on arrive à ramener de la nature en ville et que tout ça puisse contribuer à ce sujet d'atténuation du changement climatique.
Et alors pour l'aspect financier maintenant, concernant les financeurs, concernant les investisseurs, est-ce que vous notez justement un intérêt croissant, c'est ce dont on parle, hein, c'est ce qui se dit, mais est-ce que vous le notez côté de votre projet, justement pour ces projets alignés taxonomie, est-ce que c'est ce que vous constatez ?
Alors oui, aujourd'hui on a plusieurs projets qui répondent du coup à la taxonomie européenne et la demande provient d'eux.
Bon, d'accord, donc ça vient de ces investisseurs, de ces financeurs.
Tout à fait. J'ai plusieurs exemples en tête.
Oui, bien sûr.
Emerige, on est spécialisé dans la transformation d'actifs tertiaires. On est vraiment un promoteur qui refait la ville sur la ville. Si on regarde ces 10 dernières années, on a transformé...
C'est le sujet du moment.
330 000 mètres carrés exactement d'actifs tertiaires à travers 46 opérations différentes. Donc plusieurs exemples. Quai de Dion-Bouton, on est à Puteau sur un projet, un ancien bureau des années 80 qu'on va transformer.
Là, c'est première couronne, hein, c'est ça ?
Tout à fait. Ouais. En 118 logements, on conserve les sous-sols. Et puis là, c'est notre partenaire, Novaxia, qui a été très force de proposition dans le fait d'aller chercher cet alignement taxonomie européenne.
D'accord.
Autre exemple, on est à Alfortville, cette fois-ci, dans une transformation du coup logement-logement. On se situe dans le quartier Chanteraine, où il y a trois tours des Alouettes qui ont été détruites pour faire place à un projet immobilier. On réalise deux lots et notamment 105 lots qui sont acquis par la Caisse des dépôts, qui nous demande d'aller chercher cet alignement. Et donc on se met tout à fait en ordre de marche.
Et qu'est-ce que ça change, par exemple, pour un projet quand on vous demande d'aller chercher cet alignement ? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret sur le terrain, pour les métiers qui sont sur le terrain ?
Alors aujourd'hui, un des critères qui est peut-être le plus compliqué pour nous, on se situe dans l'économie circulaire et dans le fait de travailler l'adaptabilité et la flexibilité des projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va construire, par exemple, un bureau sur le projet de Picpus dans Paris.
Il faut qu'à terme, ça puisse être des logements.
Ça puisse être autre chose.
Autre chose.
Donc aujourd'hui, on va développer un projet de bureau et on va se dire, dans une seconde vie, qu'est-ce que ça pourrait être ?
Donc c'est la réversibilité des bâtiments qui est le plus compliqué.
Tout à fait. Donc sur ce projet-là, on s'est dit, et si on le transformait en résidence étudiante ? Est-ce que ce serait possible ? La réponse est, c'est compliqué, parce que pour des histoires d'éclairage, de premiers jours, de fenêtres...
Il y a les normes de sécurité aussi.
Tout à fait.
C'est pas les mêmes pour le tertiaire, pour les logements, pour...
Exactement. Et du coup, finalement, sur ce projet de Picpus, on s'est dit, on va transformer ça, en tout cas le rendre possible, transformer en hôtel. Et donc là, aujourd'hui, les réseaux sont là. On va pouvoir, dans une seconde vie, si on le souhaite, pouvoir transformer ce projet. Mais là, on est vraiment dans une démarche opération par opération.
C'est dans la dentelle, en fait.
Tout à fait, voilà. À contrario de certains critères qu'on peut vraiment, nous, travailler à l'échelle de l'entreprise pour essayer d'intégrer dans nos process et dans la manière de faire systématiquement les projets, ces critères taxonomie. Et on s'appuie aussi beaucoup, forcément, sur des labels qui permettent de structurer. Donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché de notre prestataire il y a quelques mois en leur disant, comment vous intégrez aujourd'hui la taxonomie européenne dans vos profils pour que ce soit aidant pour nos équipes opérationnelles de transformer les services.
Et alors, question, est-ce que vous faites intervenir d'autres métiers que vous n'auriez pas fait intervenir sur des projets qui ne sont pas alignés avec la taxonomie ? Je pense par exemple à certains architectes, certains experts.
Alors aujourd'hui, c'est plutôt une manière différente d'interroger les partenaires habituels qu'on a, mais de les interroger sur de nouveaux sujets, comme la réversibilité qu'on vient d'aborder.
Alors justement, on va parler du rôle du certificateur. Rodolphe, on vient de le dire, c'est votre rôle justement de faire le pont entre le texte européen et la réalité des projets, ce qui est pas toujours évident. Comment un certificateur comme prestataire aujourd'hui traduit-il ces critères parfois très techniques entre exigences opérationnelles, pardon, je vais y arriver, compréhensibles par les équipes. On voit les équipes qui sont sur le terrain. Faut traduire tout ça, faut faire de la pédagogie. Comment vous faites ? Comment vous endossez ce rôle ?
Effectivement, ce qu'on fait chez Prestataire par rapport aux textes existants, qui sont des textes européens et qui peuvent être parfois un peu lourds dans leur interprétation. Donc nous, on essaye de rendre opérationnels ces textes avec des exigences que connaissent la plupart du temps nos différents maîtres d'ouvrage, notamment sur la réversibilité, sur la biodiversité, sur la gestion de la pollution, de l'eau. En rendant opérationnelles des exigences qui sont à la fois déjà connues, parce que comme disait Julien tout à l'heure, même si la taxonomie existe aujourd'hui, ce n'est pas un sujet nouveau quand même pour la France, parce que la France est quand même un pays qui a une culture environnementale quand même.
Bah, c'est le meilleur élève.
C'est un des meilleurs élèves.
C'est le meilleur élève européen.
On ne découvre pas les sujets du jour au lendemain, mais effectivement, on vient en tant que certificateur appuyer certains éléments qui ne pouvaient ne pas être présents chez certains des promoteurs ou des bailleurs, en leur disant bah voilà ce qu'il faut faire pour être aligné d'un point de vue taxonomie et d'un point de vue opérationnel avec toute une gestion documentaire qu'il y a à faire derrière pour justifier les modes de preuve et l'atteinte de ces exigences.
Ah oui, donc il faut documenter aussi, absolument. C'est nécessaire, oui.
Donc ça fait partie d'un process qualité, c'est ce que viennent à la fois chercher les promoteurs et les bailleurs, mais aussi les investisseurs et tous ceux qui viennent financer aussi les opérations, puisque la taxonomie, quand même, c'est aussi un sujet de financement, on en parlera juste après. Mais les financeurs ont besoin d'être rassurés par le biais de certificateurs qui viennent garantir tout au long de la vie de l'opération cet alignement sur la taxonomie avec les exigences qui sont fléchées et qui sont suivies d'un point de vue documentaire ou d'un point de vue visite sur site et contre-vérification sur site, de façon à accompagner les maîtres d'ouvrage dans leur faisabilité jusqu'à la fin de la livraison de l'opération et de rassurer aussi les investisseurs.
Et vous intervenez, il faut le dire, comme un tiers de confiance.
Absolument.
Et sur la preuve, justement, en quoi votre travail d'outillage, là vous venez nous expliquer hein, la collecte, la consolidation, la fiabilisation des données, justement, comment ça aide les promoteurs et les financeurs à disposer d'un socle commun, robuste, opposable ?
Alors déjà, pour commencer, on est totalement indépendant. Donc pour les investisseurs, c'est quand même un gage de garantie de savoir que là où ils vont mettre leur argent, ce sera quand même surveillé et contrôlé par un organisme indépendant. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que le processus de certification et donc de taxonomie est commun pour tous les maîtres d'ouvrage. Donc on ne va pas s'adapter en fonction des maîtres d'ouvrage, c'est le maître d'ouvrage qui s'adapte à la certification. Et pour ça, on a un processus à la fois opérationnel. Donc à la conception de l'opération, on vient vérifier d'un point de vue documentaire donc par le biais de notre cellule technique. Hein, on a des techniciens et des opérateurs qui sont formés sur les ACV, des thermiciens qui sont aussi qualifiés sur la biodiversité, le réemploi, et qui vont vérifier d'un point de vue documentaire que tout est aligné, si je peux dire comme ça, vis-à-vis de la taxonomie et toutes les exigences qui vont avec. Et ensuite, on vient vérifier sur site lorsque l'opération avance. Bien évidemment, entre-temps, il y a beaucoup d'échanges qui se font entre les marchés et les travaux, puisque entre les marchés qui doivent être passés, la théorie et les pratiques, il y a toujours une petite disparité. Donc on vient vérifier quand même cette disparité tout au long de la vie du chantier. Donc c'est un process qui est commun, qui est unique pour tous les maîtres d'ouvrage et qui garantit en fait aux investisseurs que le maître d'ouvrage ne viendra pas interférer dans la décision de certification vis-à-vis de la non-atteinte éventuelle des exigences. La certification, c'est simple, hein, c'est binaire. Hein, c'est ça marche ou ça marche pas. Il n'y a pas d'entre-deux, en fait.
Bien sûr.
Donc ça, c'est une gage de garantie pour les investisseurs, mais aussi les maîtres d'ouvrage. Ça les tranquillise, en fait, tout au long de la vie de leur opération.
Oui, forcément.
Et de vérifier tout au long de la vie de l'opération que la taxonomie est toujours vérifiée et contrôlée par le certificateur.
Et donc ça facilite l'analyse côté investisseur, côté banque.
Exactement, exactement. Là où ça peut parfois, et Julien le disait tout à l'heure, c'est que l'interprétation, notamment pour le CSRD, c'est tellement compliqué, les données qu'il faut obtenir pour être compatible, que parfois, même si nous, le processus et le cadre est commun, on a quand même des demandes de la part des maîtres d'ouvrage des garanties supplémentaires, ils veulent des garanties supplémentaires auprès de leur commissaire aux comptes pour entériner en fait l'alignement sur la taxinomie. Donc c'est d'un point de vue à la fois exigentiel et d'un point de vue processus aussi, où il faut parfois ajuster en fonction des demandes de chaque opérateur, notamment vis-à-vis de leur commissaire aux comptes, pour garantir cet alignement. C'est un peu parfois la difficulté, c'est qu'on parle avec parfois des non-sachants techniques qui viennent entériner en fait l'alignement pour la CSRD et la taxinomie. Donc on a parfois du mal à...
Bah, c'est pas le même langage, là.
C'est pas le même langage.
Ouais.
Et donc il faut parfois apporter de la sur-garantie. Donc c'est pas toujours évident de flécher ça, surtout pour un certificateur qui a un process unique, de sortir un peu parfois de ses sentiers battus et d'aller faire un peu plus que ce qu'on peut déjà donner par... les garanties d'une certification, mais enfin, on y arrive quand même.
Maud, vous voyez un effet en termes de crédibilité des projets, justement, un effet d'être accompagné par un certificateur ?
Ah bah oui, ça simplifie la vie pour les équipes projet, tout simplement, parce que ce référentiel, il est digéré, il est pédagogique. On se fait accompagner sur les différents modes de preuve à récupérer. Et donc ça, c'est vraiment un facilitateur, je dirais, d'intégration. Donc on va chercher justement ces mentions, ces profils liés à la taxonomie sur nos opérations qui ensuite sont vraiment demandées par les investisseurs, par les financeurs, ce qui est finalement le nerf de la guerre de nos projets.
Alors justement, on va voir le côté financeur, investisseur. Yann, donc la Banque des Territoires, elle a deux casquettes. Elle a le côté financeur et le côté investisseur avec des logiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Comment justement la taxinomie s'applique dans ces deux cas ? Est-ce que vous regardez les mêmes critères avec la même intensité ou est-ce que vos exigences varient selon votre rôle ?
Alors les critères, c'est les mêmes, c'est ceux de la taxonomie, et ça, on a eu l'occasion de le dire, ça donne une grille de lecture commune pour tous les acteurs à l'échelle européenne, et ça, c'est quelque chose de très favorable. Peut-être juste rappeler qu'on est un financeur un peu différent des autres, un établissement financier en tout cas un peu différent des autres, dans la mesure où nous, on travaille sur un temps long, on n'a pas forcément des logiques très court-termistes ou de rentabilité, et que notre instance de gouvernance y siège notamment des représentants du peuple et l'État, des parlementaires, l'État. Voilà, donc tout ça nous donne une responsabilité un peu différente et une capacité à se projeter, encore une fois,
sur un temps plus long.
J'en veux pour preuve les financements qu'on fait aujourd'hui qui peuvent atteindre des durées jusqu'à 80 ans. Voilà. Rappelez que notre plan stratégique, il est assis sur deux grands axes, et ce depuis 2020, la cohésion des territoires, la cohésion sociale dans les territoires et l'accélération de la T2E, transition environnementale et écologique. Et il a été, à l'occasion de notre changement de directeur général, renouvelé pour les 5 prochaines années, 2026-2030. Voilà, donc c'est un marqueur très fort. Et ce sont ces deux axes qui drivent absolument l'entièreté de ce que l'on fait. Voilà, donc la taxonomie, nous, on se l'est déjà intégrée dans nos grilles de lecture depuis 2022. Alors à l'époque, pour tout projet supérieur à un montant un peu significatif de 150 millions d'euros, on se posait la question de est-ce que le projet était aligné aux critères taxonomiques ? Seuil qui a été redescendu en 2023 à 50 millions et qui, en tout cas sur la partie financement, s'applique dès le premier euro depuis cette année. Voilà. C'est-à-dire que n'importe quel emprunteur qui
depuis
dépose
2025.
Une demande de prêt, quel que soit son montant, dès 1 euro, va avoir un questionnaire taxonomique à remplir. Par contre, voilà, nous, l'ambition qu'on se donne, c'est d'être facilitateur, incitatif, et d'emmener en fait le plus grand nombre des acteurs avec lesquels on travaille, c'est-à-dire des acteurs publics, des élus, des collectivités publiques, à leurs outils publics, mais aussi tous les acteurs avec lesquels on est susceptible d'investir, que ce soit les promoteurs, les acteurs du tourisme, tous les secteurs sur lesquels on est susceptible d'être également investisseurs. Donc nous, c'est d'être vraiment de les inciter à accélérer le mouvement et aller de plus en plus, d'intégrer de plus en plus la taxonomie dans leur spectre d'intervention, leur processus de construction, etc., etc. Donc, on va être capable de mettre à disposition toute une palette d'outils qui nous semblent peut-être à un instant T manquer à l'écosystème. Je rappelle qu'on a une filiale qui s'appelle CDC Biodiversité et qui est capable d'intervenir en matière de renaturation quand on parle de ZAN et d'autres sujets. On a un truc qu'on met à disposition gratuitement du secteur HM qui s'appelle Prioreno, en fait, qui permet à un bailleur social de venir constater logement par logement sur l'entièreté de son parc ses consommations en temps réel, et ce qui va lui permettre peut-être d'adapter son plan de rénovation en fonction des logements les plus énergivores, etc., etc. Voilà, donc nous, on se veut très incitatif. Et pour revenir sur le cœur de votre question, nos deux cœurs de métier sont l'investissement et le financement. Là, on va avoir peut-être deux façons de regarder un peu différentes. Quand on est financeur, on va être incitatif. Comme je vous le disais, il y a un questionnaire qui s'applique à tout le monde, qui aujourd'hui a plus une vocation pédagogique et pour nous peut-être de reporting et de savoir très précisément dans tout notre portefeuille de prêts ce qui répond ou moins à des enjeux taxonomiques. Et puis on va toujours dans cette logique d'emmener un peu les acteurs à faire plus, on va dédier des enveloppes dont on va pousser encore plus les curseurs en termes de durée, en termes de bonification des marges. Et là par contre on va être très précis, on va dire aux demandeurs de ces financements, si vous respectez les critères taxonomiques, eh bien vous êtes éligible à cette enveloppe. Et du coup vous allez pouvoir vous financer encore plus long ou encore moins cher, ce qui, à la limite, peut prendre un peu en charge pour leur compte, le coût d'acquisition dont on parlait, de comment faire plus, comment faire mieux. Voilà, on va permettre de leur bonifier un peu leur plan de financement pourvu qu'ils y arrivent et donc qu'ils s'y mettent peut-être plus rapidement. Ça, c'est notre boulot quand on finance les projets.
Donc, en tant que financeur.
Exactement. On va être un peu plus peut-être coercitif en tant qu'investisseur, c'est-à-dire que dès lors qu'on agit en direct au nom de la Caisse des dépôts ou de la Banque des territoires.
Donc vous avez choisi un projet.
Exactement.
Là,
il va falloir qu'ils répondent très précisément à notre politique d'intervention. Je rappelle que quand on prête en collaboration avec ce que le gouvernement, le Trésor, nous autorise à faire.
Voilà.
On
sûr.
Met un peu le bras armé. Quand on investit, de façon très précise en fonction de nos critères d'intervention. Ouais. Et là, le projet, il répond ou pas à nos critères d'intervention.
Qui sont plus
stricts. Notamment, ils répondent, ils sont taxonomiquement compatibles, disons-le comme ça.
Moi, j'avais juste une question pour le côté plutôt financeur. Est-ce qu'il y a eu un retour en arrière? Parce qu'on a vu que certains pays à l'international avaient fait un retour en arrière ces deux dernières années. Est-ce que vous l'avez dit, hein, vous êtes public-privé. Est-ce que justement, vous avez noté un léger retour en arrière dans les ambitions, dans les stratégies publiques comme privées?
Alors, public, je ne crois pas, vraiment pas.
Vraiment pas.
Privé, ça a déjà été dit, dans un contexte économique qui est très contraint. La facilité,
mais en tout cas, côté public.
Non, côté public,
ça, en tout la cas, ligne a toujours
côté
été.
Côté Caisse des dépôts, c'est justement dans ces moments où il peut y avoir un mouvement de recul qu'on se doit de consacrer encore plus de moyens, d'être encore plus ambitieux pour aller à contre-courant de ce mouvement qui est très négatif pour l'enjeu qui est celui d'accélérer la transition environnementale.
Alors, juste, j'aimerais parler, donc on revienne sur les critères côté investisseur. Qu'attendez-vous aujourd'hui concrètement comme preuve sur le terrain? Là, quand vous parliez de critères bien spécifiques, bien stricts, qu'attendez-vous en termes de preuves et notamment des preuves taxonomiques, justement? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
Alors,
avec la structuration de la donnée, de traçabilité, voilà.
Alors, nous, on est des financiers, on sait investir, on n'est pas forcément, même si on a les ressources qui travaillent sur le sujet, mais des grands techniciens. On apprend aussi en marchant, comme les autres établissements financiers, dans le cadre d'une réglementation qui évolue, par définition. Mais justement, on travaille avec Bartel, qui nous aide à structurer notre vision sur les sujets d'immobilier typiquement, voilà, et donc on va s'asseoir sur les compétences d'un certificateur dont c'est le métier, le sachant et qui suit jour après jour les évolutions réglementaires. Donc ces acteurs-là nous sont nécessaires pour nous faire un avis précis, pour déterminer nos critères très spécifiques, très précis d'intervention et pour suivre que ces critères sont atteints dans le temps de nos interventions.
Donc vous vous faites accompagner.
Évidemment.
C'est absolument nécessaire. Maud, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très concret justement d'opération Emmerich, alors vous nous en avez donné un aussi tout à l'heure, mais où justement la taxonomie a joué un rôle clé dans le financement, éventuellement avec un lien avec la Banque des territoires ou un autre financeur, mais ce serait bien avec la Banque des territoires.
Alors, je pense qu'on peut revenir sur le projet de PIC+, qui est vraiment un projet majeur.
Et peut-être
chez
nous expliquer ce qui a changé dans la préparation du dossier, justement, ou justement dans le dialogue avec la Banque des territoires.
Tout à fait. Donc, PIC+, on est en plein Paris, sur un immense ancien garage Renault, qu'on transforme en un projet mixte avec 230 logements, près de 5000 m² de bureaux, des commerces, du fitness, de la crèche, tout ça avec un espace végétalisé. Et aujourd'hui, effectivement, la CDC, qui est investisseur, a fléché ce projet comme devant être aligné à la taxonomie européenne, et ce qui a beaucoup de sens pour nous. Alors effectivement, sur les projets qui sont portés par notre direction tertiaire, je dirais que c'est peut-être plus facile, parce que ce sont des projets qui, historiquement, sont multilabellisés. Voilà, les investisseurs sont cotés, sont eux-mêmes soumis à des enjeux. Et donc, on y arrive peut-être un petit peu plus facilement. Néanmoins, voilà, ce qui a les points d'exergue, je dirais, c'est vraiment sur le sujet de l'économie circulaire. Donc, sur ce projet, par exemple, on a maintenu, réhabilité une grande halle, la halle Schweitzer. Sur les bureaux neufs, on intègre des matériaux issus du réemploi, comme du faux plancher. Et il y a eu toute la réflexion que je vous ai présentée tout à l'heure sur la vie d'après, la réversibilité potentielle des bâtiments. Donc aujourd'hui, voilà, ce projet est un projet, je dirais, emblématique chez nous, qui montre que sur les sujets d'adaptabilité, on a des marges, mais il y a aussi quelques limites dans les usages et qu'il faut vraiment se re-questionner, je dirais, projet par projet.
Encore une fois... On est dans la dentelle. Alors pour terminer, un petit mot chacun. Julien, en une phrase, de quoi l'écosystème a-t-il le plus besoin maintenant pour monter collectivement en maturité sur la taxinomie ?
Alors peut-être avant de répondre à la question, je vais juste revenir sur quelques points évoqués par rapport à ce que disait Yann, par rapport à l'activité de prêteur de la caisse. Pour faire un lien un peu concret aussi avec les bienfaits qu'apporte la taxonomie. Et comme l'a dit Yann, les prêts sont à 60, 80 ans. Et l'adaptation, là, pour le coup, est très concrète. C'est-à-dire, si la caisse prête de l'argent pour une opération qui, dans 15 ans, ne sera plus louable, ça met toute l'opération, et côté caisse, et côté promoteur, bailleur, en péril. Donc là, un des bienfaits concrets de la taxonomie, c'est ça. Par rapport au point aussi évoqué côté Rodolphe et Maud aussi, sur le fait qu'aujourd'hui, on a les données, on a les documents, mais c'est juste une façon de faire différence. Sur un projet immobilier, en fait, ça va être des clauses, des choses nouvelles à intégrer au contrat de promotion, par exemple, dans un cas d'une DFA. Le promoteur, lui aussi, va changer ses cahiers des charges techniques vers ses entreprises. Les entreprises, avec ses sous-traitants sur chantier, on va retrouver des évolutions aussi dans les chartes de chantier par rapport à tout ce qui est pollution, économie circulaire, retraitement des déchets, par exemple. Et les documents sont là, c'est des cahiers des charges, c'est des permis de construire, c'est des DOE à la fin de chantier. Donc tout est là. Et donc l'opportunité, justement, c'est de revoir cet ensemble de processus et de data. Et donc ça rejoint votre question. Le gros enjeu pour la taxonomie et pour se préparer, en tout cas pour les entreprises qui ne sont pas soumises actuellement, c'est se préparer à faire évoluer les processus pour être le plus lean possible, le plus efficace possible dans l'expression de ses exigences avec l'ensemble des partenaires et sur la collecte des données et des preuves, que ce soit des preuves d'engagement ou des preuves de réalisation, parce que ça dépend aussi à quel moment on se situe sur un projet. Et donc toute cette efficacité processus données vont permettre aussi d'aller faire d'autres choses que ce que la taxonomie vise, que ce soit en connaissance de patrimoine, par exemple, pour aller après chercher des économies de charges, par exemple.
Oui, ça va permettre d'aller plus loin, en fait.
C'est ça.
Maud, qu'est-ce qui ferait demain que vos équipes projets voient vraiment la taxonomie comme un outil opérationnel qui les aide à structurer les projets et à monter en qualité plutôt qu'une couche de reporting ?
Aujourd'hui, c'est en faire une vraie stratégie d'entreprise, l'intégrer dans notre stratégie RSE et Région Demain et faire de chaque pilier, finalement, peut-être même le détacher de cette notion de taxonomie qui fait peur, mais de se dire que c'est le socle qu'on veut déployer sur nos projets.
Rodolphe, si vous deviez retenir un seul levier côté certificateur, ce serait lequel ? La structuration des données, la diffusion de standards communs ou autre chose ?
Moi, j'aurais plutôt envie de dire, évidemment, tous ces points-là, mais aussi le facilitateur. C'est-à-dire que ce soit pour les financeurs, comme le disait Yann, on est un peu les yeux techniques du côté des financeurs. Et pour les promoteurs, c'est aussi le facilitateur, parce que de notre côté, en tant que certificateur pour le sujet de la taxonomie, on va regarder que ce sujet-là chez le maître d'ouvrage et veiller tout au long de la vie de l'opération à ce qu'il atteigne ces différents items. Alors que lui, promoteur ou bailleur, il a bien d'autres choses à faire tout au long de la vie de l'opération que de s'occuper que de la taxonomie ou d'autres sujets. Donc il peut, parfois, tout au long de la vie de l'opération, un peu perdre de vue ces sujets-là. Et nous, on est là pour les rappeler à l'ordre, hein, si je peux le dire aussi comme ça. Donc quelque part, c'est aussi être facilitateur pour eux, parce que nous, on n'a que ce spectre-là à regarder pour eux sur les opérations, donc c'est beaucoup plus facile de notre spectre.
Et alors Yann, dernière question pour vous. Comment les financeurs peuvent-ils mieux valoriser les trajectoires de progrès et pas seulement les projets déjà exemplaires pour que la taxinomie devienne vraiment un outil d'incitation ?
Oui, je pense qu'il ne faut pas se contenter de rapports RSE de fin d'année pour regarder ce qu'on a fait de bien pendant l'année. C'est un peu ce qu'on essaye de faire, nous, à la Banque des Territoires. C'est donner plus d'outils, être plus incitatif, créer une nouvelle gamme de financement, de sources d'investissement qui permettent d'emporter les acteurs, qui permettent de solvabiliser les projets. Voilà, en tout cas, nous, on est convaincus qu'il faut encore accélérer sur ces sujets. Et en tant que Caisse des dépôts, ce qui est certain, c'est qu'on mettra encore et toujours plus de moyens pour permettre à tout l'écosystème d'avancer toujours plus vite.
Et bien voilà, ce sera le mot de la fin, avancer toujours plus vite. Merci beaucoup à vous quatre pour cette émission. Donc on voit bien que la taxinomie européenne peut être vécue comme une contrainte pour certains, mais qu'elle devient un vrai levier dès lors que les règles sont claires, que les données sont structurées et partagées et que les promoteurs, les certificateurs et les financeurs parlent le même langage. Je vous souhaite une très bonne fin de CIMI, hein, si vous êtes là. Et puis, on se continue. En tout cas, on vous fait vivre cet événement toujours sur Radio Immo. À tout de suite.
Le CIMI 2025 en partenariat avec Prestataire Certification sur Radio Immo et Radio Territoria.